Session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 3 juillet 96, troisième conférence.
Ça ne ferait pas trop longtemps ce soir. Parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu fatigués. Je comprends, c'est un effort difficile à faire. Il n'y a rien de plus difficile que l'induction, au sens profond. Et vous voyez, il y a diverses inductions, puisque la saisie des principes propres et des causes propres, on ne peut les saisir qu'inductivement. Et c'est pour ça que très très vite, dans la scolastique décadente, pas Thomas d'Aquin, et après Thomas d'Aquin, quand au fond la philosophie s'est transmise uniquement par mode de commentateur et de commentaire de Thomas d'Aquin, on n'a pas fait assez attention à ce que saint Thomas lui-même souligne. Il y a une sagesse philosophique, il y a une sagesse théologique, il y a une sagesse mystique. Quand on expliquait ça à Marthe Robin, parce que plusieurs fois elle m'a demandé de lui expliquer, nos dialogues étaient assez particuliers, pas du tout comme ça, ceux de Jean Guiton. C'était différent. Marthe interrogeait, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Je ne sais pas comment elle suivait, puisqu'elle n'était pas là, mais elle devait entendre ce que certains qui suivaient la retraite posaient comme question. Leur Marthe, une fois, m'a dit, c'est merveilleux, ces 3 degrés de sagesse, ça met tout en ordre. Il faut surtout ne pas confondre la recherche philosophique, la recherche théologique, la recherche mystique. Et on ne peut dialoguer avec les savants qu'au niveau de la sagesse philosophique, en montrant qu'il y a 2 manières de regarder l'homme. Parce que c'est surtout par rapport à l'homme. La première rencontre que j'ai faite avec le Saint-Père, avant qu'il soit pape, c'était tout de suite la question qu'il m'a posée. Qu'est-ce que c'est que votre philosophie? Qu'est-ce qu'elle regarde en premier lieu? J'ai dit l'homme, très simple, éminence, puisqu'il était cardinal. L'homme, tel qu'il est, en le regardant par notre expérience. C'était la même question, je me souviens, à Limoges, où je prêchais au Carmel, et la meilleure prière que nous trouvions, c'était au moment des prêtres ouvriers, dans toute leur force. Et la meilleure prière du Carmel de Limoges me dit, ça ne vous dérange pas de prendre votre repas de midi avec des prêtres ouvriers? Je dis, mais pas du tout. Au contraire, je suis très heureux de les rencontrer. Alors moi j'étais en dominicain, ils savaient que j'étais, eux sont arrivés dans leur costume ouvrier. Et tout de suite, première question, qu'est-ce que vous faites? Je dis, j'enseigne la philosophie. Ah, alors ils disent laquelle? Je dis, mais quoi, pour vous il y a plusieurs philosophies. Pour moi il n'y en a qu'une. Elle me dit laquelle? Mais la recherche de la vérité sur l'homme. Au fond, vous êtes prêtre ouvrier pour savoir ce que c'est que l'ouvrier. Moi, je suis philosophe pour savoir ce que c'est que l'homme. Et je fais la remarque que vous ne saurez vraiment ce que c'est que l'ouvrier que si vous savez l'homme. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'homme, vous ne saurez jamais ce que c'est que l'ouvrier. Alors il m'a regardé attentivement. Parce qu'il a l'air de faire comprendre qu'en effet, l'ouvrier, c'est c'est un homme qui travaille de telle manière, dans telle condition. Mais la finalité de l'homme reste la même. Elle n'est pas modifiée par ça. Donc je commençais à leur faire un petit cours de philosophie, parce qu'ils me demandaient laquelle philosophie. Alors je leur dis, mais c'est la philosophie de mon expérience. Vous êtes prêtre ouvrier pour connaître l'expérience de l'ouvrier. Et moi, j'essaie d'étudier ce que c'est que les expériences humaines. C'est ça qui m'intéresse, les grandes expériences humaines. Alors j'ai développé. C'était pas mal pour eux d'entendre ça. Là, tout d'un coup, ils m'ont dit, mais alors ça doit être très intéressant, cette philosophie. Je me dis, mais heureusement, si elle n'était pas intéressante, je ne l'enseignerais pas. Ça n'a aucun intérêt. Si vraiment, on arrive à découvrir ce que l'homme, dans sa finalité propre, j'ai dit, mais c'est ça qui est intéressant. Quelle est votre finalité, vous? Vous voyez, j'essayais de coincer un peu pour qu'ils comprennent qu'il y avait matière. C'est tout juste, ils ne sont pas venus à Fribourg. Parce qu'ils trouvaient que c'était très bien. Oui, je dis, c'est pas du tout la philosophie qu'on enseigne autre part, parce que celle de la Sorbonne, c'est l'histoire de la philosophie qu'on enseigne. Beaucoup plus. L'histoire, mais on ne regarde pas ce que c'est que l'homme. Alors c'est ça qui est intéressant. Le philosophe doit pouvoir parler pour tous les continents, dépasser les conditions de l'homme européen, africain, asiatique, pour découvrir ce que c'est que l'homme. Un Chinois est un homme avant d'être un habitant de Pékin. Il faut découvrir ce qu'est l'homme et dans quelles conditions aujourd'hui il vit ça. Alors, chercher ce qu'est l'homme. Je commence par le travail. L'expérience la plus profonde, pas la plus profonde, la plus universelle, c'est le travail. Je crois que tout homme bien fait et bien né, aime travailler. Et surtout quand c'est dans le domaine qu'il aime bien. Un homme qui ne travaille plus, une femme qui ne travaille plus, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il perd son équilibre. Et dès que vous vous remettez à travailler, qu'il s'agisse d'un travail intellectuel, qu'il s'agisse d'un travail manuel, ça n'a pas tellement d'importance. Le tout, c'est de comprendre que le travail est typiquement humain. Puis travailler sur les liens de l'homme avec l'homme, l'amour d'amitié, le point de vue communautaire. On fait partie d'une communauté, d'une famille. Et ensuite, enseigner sur ce que c'est que le vivant. Et pour mieux comprendre le vivant, ce qu'est le non-vivant, il y a une dualité dans l'homme, corps et âme, ce que nous avons vu. Mais c'est évident que ce qui fait le propre de la pensée philosophique, c'est de découvrir les principes propres du travail, de l'amour d'amitié, de la communauté, ce qu'est le vivant. C'est ce que nous essayons de faire. Et le vivant, c'est tout de suite l'homme. Vous voyez, c'est très curieux, parce que si vous êtes attentif, vous voyez que d'abord, la philosophie est une philosophie pratique, puis elle devient une philosophie plus spéculative. Il y a une philosophie qui éduque, et il y a une philosophie qui cherche la vérité. Ou plus exactement, la même philosophie se transforme elle-même dans une contemplation. L'homme est fait pour la contemplation. Et tant qu'il n'a pas découvert cela, il est malheureux. Parce qu'il n'a pas atteint sa finalité propre. Et c'est ça que l'homme doit essayer de découvrir. Ce pourquoi il est fait. Jusque maintenant, nous sommes restés au niveau philosophie du vivant. Et la philosophie du vivant commence par la découverte de l'âme. Il faut découvrir la source cachée, propre de toute ma vie. Et je découvre donc cette source. Et je découvre cette source à partir de mes diverses opérations. Je vois tout de suite qu'il y a des opérations communes avec l'animal. Je ne fais pas la philosophie du vivant de l'araignée. Non. Ça m'intéresse, l'araignée. Mais je ne l'aime pas tellement. C'est difficile d'aimer une araignée. Caressez-la. Hein. C'est curieux. Un animal d'un irascible effrayant. Alors, si vous êtes très irascible, regardez l'araignée, ça vous apaisera. Parce que vous direz que je suis en présence de quelqu'un qui est plus irascible que moi. C'est très irascible. Bon, il y a toute une partie de ma vie qui est commune avec l'animal. C'est vrai. Tout ce qu'on appelle les opérations de la vie végétative. Même mon psychisme, mes passions, découvrir les racines de l'araignée, c'est quand même quelque chose d'important. Mais je saisis mieux mon irascible que celui de l'araignée. Parce que je saisis de l'intérieur. Essayez de voir comment vous vous mettez en colère. Comment des situations qui vous mettent très vite en colère, il y a d'autres situations qui vous donnent de la paix. Il y a des êtres, des personnes humaines qui engendrent la colère. Dès qu'elles sont là, tout est agité et tout devient tragique. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui engendrent la paix. Très curieux, ça. Et puis, dans l'homme, il y a cette soif de vérité, ce désir de vérité, ce désir de contemplation, la connaissance intellectuelle tend vers la vérité. Et à découvrir, en définitive, s'il existe un être premier qu'on appelle Dieu. Et je découvre tout cela avant que de caractériser mon âme. Je peux découvrir très vite qu'il y a en moi une source de vie. Je peux la découvrir par mode de connaturalité. J'aime mon intériorité. J'aime mon âme. Et j'aime cette intériorité que je porte en moi. Et cette intériorité est là présente. Et je vois que plus mes opérations vitales sont au-delà de la matière, plus elles relèvent d'une recherche de vérité pour elle-même, plus je découvre mon intelligence dans ce qu'elle a de plus pur. Les deux extrêmes de ma vie, la vie végétative, la vie de contemplation. La vie végétative se finalise par le point de vue de la procréation. Seul l'être parfait engendre. Et c'est vrai que la finalité de la vie végétative, c'est la procréation. Et la finalité de mon esprit, de ma connaissance, c'est la contemplation. De sorte que je reviens toujours à décrire et à comprendre la profondeur de ces deux opérations extrêmes. Et dans la contemplation, je découvre le lien entre la recherche de la vérité et le bien, la personne bonne, qui est au-delà de tout, que j'aime, qui m'attire, qui est bonne. La contemplation, je ne peux contempler qu'une personne qui m'attire par sa bonté. Les deux extrêmes. Alors je vois bien par là, tout de suite, que cette âme que j'ai découvert par induction, donc dans cette connaissance particulière qui me fait passer du visible à l'invisible, j'ai une première connaissance de l'âme par connaturalité. Pour découvrir ce qu'est l'âme, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut avoir quand même un minimum de connaissances pour elle. Je m'aime moi-même. Mon ami me fait découvrir qu'il y a en moi quelque chose de bon. C'est rassurant de savoir qu'il y a quelque chose de bon en moi. Et ça, c'est l'ami qui témoigne cela. Et si je fais un peu de déprime, l'ami est l'homme, espèce d'imbécile, quoi. Pourquoi avoir cette déprime? Il n'y a aucune raison. Tu regardes ta fatigue, mais regarde ce que tu es capable de faire. Regarde que tu peux donner de la joie à quelqu'un, parce que tu es là en présence, présent. L'ami fait sortir de certains repliements sur soi qui sont mauvais. Mais je peux étudier ce qu'est la contemplation. C'est moi qui contemple, et je suis heureux de contempler. Je contemple ce qu'est l'âme humaine de mon ami. C'est une certaine contemplation. Et surtout, je peux contempler l'être premier. Et en découvrant l'être premier, mon créateur, je peux l'adorer et le contempler. Étudier cette relation particulière de moi-même et de mon créateur en adorant me fait découvrir ce qu'est mon esprit. C'est très étonnant ça. Et découvrir comment, à partir de cette adoration, je peux vivre d'une certaine attraction de celui qui est mon créateur et mon père, le père de mon âme, le père de mon esprit. Il y a une possibilité de rencontre, de le regarder. Et de le regarder sans le voir, mais en sachant qu'il me voit. Il suffit pour contempler celui qui est mon créateur, de savoir qu'il m'a créé et qu'il m'aime, qu'il m'a créé dans l'amour, et donc qu'il m'aime, et qu'il me voit, et qu'il m'attire. Je sais que je ne peux pas le voir directement, mais je sais que je peux le voir à travers le monde qui provient. surtout à travers cette soif d'aimer, cette soif de vérité qui m'attire. Il y a quelqu'un qui m'aime et qui m'attire. Et ce quelqu'un est plus proche de moi-même que je ne suis proche de moi-même. Je peux découvrir ça. Après avoir découvert l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu, et découvert que cet être qu'on appelle Dieu est mon créateur, je peux tout de suite comprendre qu'il est intimement présent en moi. Et donc, il y a deux êtres qui habitent en moi, mon esprit, la capacité de le connaître, l'être premier, la capacité de l'aimer, et mon créateur, qui est mon premier amour, et qui actuellement m'aime. C'est très grand cela, de découvrir cette présence d'un être qui ne fait pas nombre avec moi. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire, ça. Je me souviens quand, venant de Fribourg à Paris, on était obligé de partir le vendredi soir par le train de nuit. Alors, où on trouvait des coins tranquilles où on pouvait dormir? On trouvait des âmes errantes qui vous attendaient. Une fois, j'ai trouvé une âme errante qui m'attendait. On me dit, on aura toute la nuit pour parler. Il était très heureux, moi j'étais moins heureux. Mais c'était dit avec tellement de gentillesse que j'étais bien obligé d'écouter. Alors, c'était un petit bonhomme de 17 ans, très éveillé. Et puis j'étais tellement heureux de me dire, maintenant je crois en Dieu. Avant, il y a un an, je ne croyais pas. Et je m'écris sur tous mes papiers, à l'école, au collège, tous mes papiers incroyants. Et je soulignais. Et j'étais fier de souligner. Et pour moi, ça me semblait contradictoire. Parce qu'on disait un Dieu créateur. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Je ne comprenais pas du tout. Puis tout d'un coup, il y avait la grande exposition au Trocadéro sur l'évolution de la science. Et ça se terminait par un petit cinéma qui essayait d'exprimer à sa manière. Parce qu'on ne peut pas l'exprimer. La création. Autant qu'un savant pouvait imaginer. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'au cinéma, on montrait que s'il y avait un être qui n'était pas soumis à notre univers aux trois dimensions, cet être pourrait traverser notre univers sans que cet univers s'en aperçoive. Alors il s'est dit, mais si Dieu existe, il n'a pas trois dimensions, il est au-dessus de tout ça. Alors il peut passer à travers notre univers sans qu'on s'en aperçoive. Mais c'est extraordinaire, ça. Puis il a réfléchi beaucoup là-dessus. À sa manière, une espèce de petite métaphysique s'est faite. Métaphysique au-dessus de ce monde. C'est dit, il y a quelque chose. C'est donc, c'est pas si bête de parler de Dieu. C'est pas contradictoire. Parce que si Dieu existe, mais il est quand même un être formidable. Et nous, on ne fait aucune attention à cet être-là, mais on est des imbéciles. S'il existe, Il nous regarde. Il nous aime. On existe par lui. Il a développé ça. Sa métaphysique à sa façon. J'ai trouvé ça très beau. Avec le zèle d'un néophyte. Il y avait une grâce de Dieu. C'était très net. Et le zèle d'un jeune découvrant sa bêtise qui jusque-là disait Dieu n'existe pas. C'est stupide. Au fond, on n'est pas fait pour soi. On est fait pour autre chose. Alors à ce moment-là, il a demandé conseil à quelqu'un qu'il savait croyant. Disant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer Dieu? Parce que s'il est là avec une voix, je désire le rencontrer, moi. Parce que il doit être quand même touché par quelqu'un qu'il cherche. Ah oui, il faisait toute sa petite métaphysique. C'était très beau. Et c'est vrai. Cette découverte formidable que, au plus intime de nous, habite non seulement notre âme. Notre âme, elle est en code naturalité avec nous. Mais habite un autre être, créateur de l'âme. Alors, voyez, c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir ce qu'est l'esprit. Au fond, c'est ça qui est admirable dans l'esprit. Il y aura la différence entre l'esprit et l'âme. Mais ce qui est admirable dans l'esprit, c'est que l'esprit va de découverte en découverte. Mon esprit, j'allais dire, prend toutes ses dimensions dans la mesure même où je découvre la vérité. Dans la mesure même où la vérité est plus proche de moi. Je la découvre. Mon esprit, il est en conne naturalité avec tous ceux que je connais. Parce que c'est moi qui les connais. Et je vais près d'eux. Et eux peuvent venir demeurer dans mon intelligence, dans mon esprit. Mais je crois que ce qui est très juste, c'est que très souvent, notre esprit est comme une marmotte. On passe des examens, on n'y comprend rien, mais il faut passer des examens. Le lendemain des examens, c'est plus rien. C'est pas ça l'esprit, vous comprenez? Ça, c'est la bête à examen. Alors, il y a des bêtes à examen, comme il y a des bêtes de somme, il y a des bêtes. Les bêtes des siècles, oui. Et puis, il y a autre chose. Où on réfléchit sur ce que l'humanité, aujourd'hui, a découvert. Et que souvent, cette humanité qui se croit très intelligente grâce aux découvertes qu'elle fait tous les jours, qui sont des découvertes très étonnantes, mais du côté de l'extension, très peu du côté de la pénétration, du côté quantitatif, très peu qualitatif. Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit. Je suis un être spirituel par mon intelligence. Je ne dis pas par ma raison, je ne dis pas par ma logique, mais par ma capacité d'adorer et de contempler. Je suis un esprit capable d'être en relation avec un autre esprit qui, lui, est premier. Vous voyez comment l'esprit est au-delà du temps. Il découvre, il peut découvrir un esprit qui est au-delà du temps. découvrir. Je peux vivre en sa présence par l'adoration. Et je peux essayer, dans une certaine mesure, de le connaître. Il me voit, il me regarde. Je ne le vois pas. Et je dis c'est normal, parce qu'il est l'être premier, au-delà de tout ce que je peux toucher. Mais c'est quand même lui qui m'attire. C'est quand même lui qui me donne un sens à ma vie. Et je peux découvrir, à ce moment-là, qu'il y a en moi une capacité prodigieuse de contempler, d'aimer, de découvrir cet être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Il y a en moi quelque chose comme naturel avec l'être premier. Et dans la mesure où je l'adore et dans la mesure où je le contemple, je m'ennoblis, je m'enrichis. Mais en sachant qu'il est présent et que lui me voit que lui me regarde. Je suis capable, si je réfléchis, si je me mets à réfléchir sur ce que je suis profondément, à ce face-à-face, à me laisser attirer par cet être premier qui donne un sens à ma vie. L'esprit, c'est donc cette capacité que j'ai de rencontrer un être qui n'est pas moi, qui est plus grand que moi, qui est plus noble que moi, et qui en même temps est celui qui me donne toute la signification de mon être. Je suis créé par lui, je suis créé pour lui. Et il m'aime pour ce que je suis. Je suis aimé de lui. Et donc si je peux le découvrir, là je découvrirai un sens simple.